bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Oui, avec Léa Cadeau-Moudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tom Villa.
Salut.
Bonjour.
Et nos invités, Alice Paul et Guillaume Gagnon.
Bonjour.
Bienvenue et déshabillez-vous. Bienvenue pour parler du Dindon, ce film que bah dont vous êtes un peu responsable quand même, Guillaume Gallienne. Bah, d'abord, bonjour, Alice Paul.
Bonjour.
Vous êtes trop belle. Trop belle. C'est, oui, vous êtes un peu responsable, Guillaume, de ce projet.
Dindon. Non, vous avez participé.
Ah, ah oui, j'ai participé, mais l'idée, c'est j'allais l'espérer.
C'est,
jamais,
ouais. C'est vrai.
Oui.
Ah bah
oui.
Et vous avez participé à l'écriture du scénario. C'est
oui, à l'adaptation.
Ça fait une dizaine d'années ou même plus, une quinzaine d'années qu'un Fedot n'avait pas été adapté au cinéma. C'est un risque de réécrire une pièce de théâtre et d'en faire un film.
Non, je crois pas. Enfin, quand la pièce est bonne.
Mais à ce moment-là, il y en a. Non, il y en a plein de bonnes pièces qui pourraient se retrouver au cinéma. Ce qui est pas le cas.
Donc pourquoi il y a plus très mauvais scénario, donc il faudrait peut-être s'inspirer un peu plus du théâtre. Non, je ne sais pas.
On est en direct, on est en direct. Hein,
ah, qui balance, qui balance direct.
Mais non, mais c'est une très bonne pièce. Mais non, mais il est, c'est un génie du rire. Il est génial, Fedot, donc autant s'inspirer.
Autant en profiter.
Bien, ouais. Ouais. Ouais.
Avec Danny Boone, Ahmed Silla, Laure Calamy, oh là là. Qui est dingue, ouais. De chez Dingue, tout autant que Camille Lelouch et ouais. Alice Paul, évidemment. Ce film, on va évidemment en parler. Il sort demain. Mais d'abord, des questions concernant nos invités. On va commencer par Alice Paul, qui, adolescente, se trouvait moche, pas drôle, et détestait quoi chez elle?
Ses joues.
Non.
Ses cheveux?
Non.
Sa taille? Elle a très beaux cheveux.
Les pieds?
Non.
Le nez, les oreilles?
Ses amygdales?
Ses orteils?
Non.
Ses mains?
Sa taille? Sa voix?
Ses yeux, sa bouche?
Sa voix, oui, exactement.
Ah bon?
Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre voix?
Ah
vous
oui.
Ne vous plaisez pas dans votre voix.
Alors, non, mais il y avait plusieurs trucs, c'est pour ça que je me disais lequel vous allez sortir. Moi, je me faisais une petite liste, tranquillement dans ma tête.
Adolescente, je me trouve moche, garçon,
oui,
fille,
si
peu importe. On va
d'ado.
Dire que voilà, c'est un
oui.
truc d'ado qui va à tout le monde. Mais c'est quoi le problème de la voix?
Non, la voix, c'est la première fois que je me suis vue dans un film et que je me suis entendue. Je suis allée pleurer dans les toilettes. C'était un téléfilm pour France 3. J'ai dit, mais j'ai tout sacrifié pour faire ça et c'est une catastrophe. Quoi.
C'est la texture de la voix ou c'est la justesse du jeu?
La texture et puis la surprise de l'ensemble, quoi. J'ai dit, mais j'ai violent. Fait une épouvantable erreur, quoi. Non, mais vraiment, je trouve.
C'est vrai que c'est travaillé un peu, quand même.
Ah, ben là, j'ai bossé. Hein.
Ses débuts, Guillaume Gallienne a eu une carrière internationale. Avec qui a-t-il tourné?
George Clooney.
Non. Ah
oui. Brad Pitt.
Non.
C'est Acabi.
Woody Allen.
Non, je parle de réalisateur.
Ah, Spielberg.
Non.
Scorsese?
Non.
Polanski?
Woody Allen?
Non.
Okay,
Ah, l'autre alors?
Un grand réalisateur américain, non?
Alors, je vais vous aider, une réalisatrice et un réalisateur.
Cameron?
Non.
Alors, ça aide pas.
Il y en a un des deux qui a réalisé un film, je crois que le titre était en français. Je sais pas si vous étiez dedans d'ailleurs dans celui-là.
Mais c'est un réalisateur français ou américain?
Américain
qui a fait un film avec le titre en français.
Ah bon?
Ah oui, bah même si Guillaume...
Même Guillaume, c'est plus... La réalisatrice aussi, le
oui,
titre est en français.
Oui, la réalisatrice,
américaine.
Oui, mais ça c'était...
Américaine.
Américaine,
Catherine Bigelow. Avec un titre en français. Bah, quand même.
Enfin, c'est un prénom.
Bah, et alors, c'est français, monsieur?
Oui.
Allons, c'est la France.
C'est même autrichien.
Allons. Il en dit trop.
Si. Non.
J'aurais adoré. Guillaume Gallienne me connaît tellement bien. Mais j'aurais adoré, évidemment. J'ai répété pendant des années. Mais j'ai pas eu le rôle. Ils l'ont filé à une.
Il faut que j'en fasse. Attends. J'ai pas dit qu'il incarnait Sissi. Il y a plein de rôles autour de Sissi.
Non, mais c'est vrai. Mais j'en rêvais.
Leïla, on a parlé. Elle vous voyait un rôle du poney.
Oh, mais je t'ai pas embrassé ce matin. Tu peux pas dire ça de mon année.
Mais j'aime bien.
Je sais pas.
Donc vous n'avez toujours pas trouvé,
non,
je
sais.
Ah non, c'est vrai. Alors tu disais, inquiète-vous déjà.
Non,
les
pas.
Deux films dans lesquels il a joué sont deux prénoms. Les deux
oui.
titres sont deux prénoms.
Exact.
Jackie et Michel.
Non,
on cherche, on cherche.
Tu penses très fort.
Deux prénoms séparés.
Deux films américains. Donc.
Oui, réalisateur américain. Super connu. super connu.
Il y en avait un, je disais quand même deux phrases. Hein, mais bon,
peu importe.
C'est un... Non, attends, mais cherche un réel.
Alors, son prénom est une ville australienne, je peux en faire plus.
Ouais. Sidney Pollack. Ah,
ok, bravo. Ça c'est une réponse. Le film c'était Sabrina, l'autre, la demoiselle. Le prénom est une ville de Bulgarie.
Sofia Coppola.
Oh, joli. Et Sydney, Sofia, c'est vrai que vous voyagez finalement aussi.
Ouais, c'est vrai.
Ok, ça va.
Un petit clip avec Paris Hilton et hop, c'est bouclé.
Bien. Allez, toi aussi, tu auras droit.
Non, Sydney
Pollack et Sofia Coppola.
Oui.
Marie-Antoinette et Sabrina.
Ouais, Sabrina, vraiment, je disais deux phrases, mais c'était.
Ah, mais quelle phrase ?
Quelle phrase ?
Quelle phrase, monsieur ?
Très fort. Et Marie-Antoinette, en revanche, oui, là, c'était un beau rôle. Ouais.
Ah oui, alors comment on se retrouve sur ces projets-là ? C'est un casting français, on doit parler parfaitement l'anglais.
Oui. Je me souviens juste que sur le Cinépollac, il y avait une costumière qui était une grosse comme ça, et je vois une chemise immonde, verte, caca d'oie avec des triangles noirs et des fleurs violettes. Et je dis, mais vous êtes sûr? Et la costumière me dit, Guillaume, dans ce film, tu auras l'air cool and sexy. Classe. Et je dis, mais la chemise, elle est... voilà, bon, je sais pas si j'avais l'air cool et
est-ce
sexy.
Est-ce qu'il y a réellement une différence dans la manière de travailler entre les Américains et les Français, ou c'est une rumeur
Après,
urbaine?
Je crois que ça change d'un réalisateur à un autre, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il y a en effet syndicalement des différences, déjà le nombre d'heures, parce que c'est 10 heures sur un plateau américain, alors que c'est 8 en France. Enfin bon. Et puis, il y a des choses où on ne sait pas. Par exemple, c'est Guillaume Canet qui me racontait qu'un jour, il a parlé à un figurant sur le film qu'il réalisait sur Blood Ties. Et la directrice des figurants est venue le voir en disant « Ça, plus jamais, parce que maintenant, lui, je suis obligé de le payer. Parce que je suis obligé de le payer comme acteur. »
Parce que le réalisateur a parlé à un figurant.
Oui.
Ah ouais.
Ouais. Donc voilà, il y a des.
Pas parce que le figurant a parlé dans le film.
C'est
juste apparaît dans la vie.
Oui. Et ça non. En fait, c'est très syndiqué. Donc,
c'est marrant, ça me fait penser à dans un orchestre philharmonique.
Oui.
J'avais réalisé une émission, tourné une émission avec un orchestre philharmonique, et j'étais allé parler à l'un des violonistes. Et pareil, le chef d'orchestre était venu me voir en disant plus jamais. Alors c'était pas une question de salaire, c'est une question de principe. Plus jamais, il faut parler au chef d'orchestre. Le chef d'orchestre parle au premier violon, et le premier violon parle au violon.
Ouais,
il faut pas parler directement à l'autre.
Faut respecter la pyramide.
Mais ce qui est totalement non, mais c'est inhumain.
C'est un truc technique.
C'est surtout n'importe quoi.
Non, c'est un truc hiérarchique.
Ouais, c'est ça.
Voir d'ego, voir d'ego.
C'est hyper poussiéreux.
C'est avec les chiens de berger, c'est pas.
Non, il a raison. C'est totalement un truc d'ego. Pourquoi Alice Paul a-t-elle connu un grand moment de solitude lors d'un mardi gras, pardon, en CE2?
C'est quelqu'un qui était déguisé, elle s'est plantée de jour.
Exactement. T'es assez déguisée ?
Je suis trop venue, tu commences à me connaître. Non, j'aurais pu faire ça.
C'est génial. Vous êtes arrivée déguisée en quoi déjà ?
En coquelicot.
En coquelicot.
On avait fait ça avec ma mère, on était très contente avec une très jolie collerette comme ça. Mais c'était pas le bon jour. Depuis, je me suis dit, ils ont des déguisements très simples.
Ils sont écoliers.
L'autre moment de solitude pour un papa, c'est d'être sur le chemin de l'école et de voir tous les enfants déguisés et de se dire « Merde, c'est aujourd'hui mardi gras et je n'ai pas déguisé mon enfant. »
Ça sent le vécu.
Ça sent le vécu, je te confirme.
Comment
vous êtes sorti de ce coquelicot-là?
Bon, je passais la journée à côté du radiateur. Comme
en coquelicot.
En coquelicot. Je crois que j'ai enlevé la collerette au bout d'un moment, dans mon souvenir. Mais...
Titre. En 2017, Guillaume Gallienne a vécu une première. Laquelle? Une première dans la vie de Guillaume Gallienne.
Il a connu l'amour.
Non, en 2017.
Bah quoi?
Non, première professionnelle.
2017. C'est en lien avec les États-Unis?
Ah oui, si.
Non.
Avec son parcours.
Non.
Ah, il a fait
en lien avec son métier. Non.
Il reçoit une récompense.
Une
récompense.
Une cascade. Non, attends, j'ai commencé avant. pour ça que j'ai ri, pardon.
Il réalise. Non.
Alors, c'est pas loin, c'est dans l'idée, oui.
Oui.
C'est pas de la réalisation.
Il met en scène.
Oui,
quoi. Un opéra.
Et joli. Joli. Ça, c'était un moment qui vous a marqué? Première mise en scène d'un opéra?
Oui, c'était là aussi, dans le genre entre les égos et une nouvelle façon de réfléchir avec ça, c'était très intéressant.
C'était travailler à l'Opéra Garnier?
Oui. On l'a repris l'année suivante, heureusement d'ailleurs. Mais c'était mieux parce que j'étais plus à l'aise aussi avec comment ça se passe. Et puis, mais j'ai adoré travailler avec les chanteurs. Ils sont d'une immense humilité. Alors c'est drôle parce que les chanteurs, contrairement aux acteurs, ils adorent qu'on leur montre.
On leur montre ce qu'ils doivent jouer et ils le font dans la seconde, ils le savent très bien. Et eux, ils adorent. Alors qu'un acteur, on lui fait ça, on l'annule. C'est horrible, on le réduit à imitateur, c'est affreux. Alors qu'un chanteur, il adore. Il dit, ah, ok, d'accord. Ah, ah, faccio così. Et voilà. Et le nombre de langues, ça, c'est impressionnant aussi.
Sur une même scène.
Ouais, sur une même scène, ça, c'est très impressionnant.
Et, parce qu'ils sont obligés, pour leur rôle, pour leur métier, tous, de maîtriser l'italien et l'allemand.
Ouais, bah oui, déjà, et puis l'anglais parce que c'est la langue la plus commune, et puis mais il y avait un chanteur très très drôle, un très grand tchèque, et à un moment il devait prendre la Cenerentola, le Cendrillon dans ses bras, et puis il savait pas comment se retourner, comment, c'était un peu compliqué. Et je dis ouais, c'est un peu comme quand on fait l'amour, il y a toujours un bras qui gêne. Et là le tchèque il dit ouais, ça c'est le moment où je demande au voisin de rentrer chez lui.
En anglais donc.
C'est dingue.
Tiens, ah ouais, quand même, il va vite. Et ils sont rigolos. Voilà.
Et le lieu chargé, parce que
mais ça, le lieu, je le connaissais parce que j'avais fait un ballet là-bas. J'avais avec Nicolas Le Riche en 2005, on avait fait Caligula.
Non, mais il y a pas. J'imagine une fois. J'ai pas eu la chance d'aller 36 000 fois à l'opéra, mais chaque fois que j'y vais, c'est quelque chose qui est totalement prenant. Enfin, c'est comme la Comédie Française.
Alors,
c'est des endroits, des adresses dingues.
Le ballet, on l'avait fait.
Ça vous fait rien,
beaucoup répété. Bah, d'abord, je suis un gars de l'institution depuis toujours, puisque j'ai fait le conservatoire directement. Je suis rentré au Français, donc je connais ce genre de maison. J'y vis depuis 23 ans. Donc après, si le Garnier, c'est sublime, toutes les différents studios de répétition de danse, il y en a des très très beaux. Il y en a... Là, l'opéra, on répétait plus à Bastille, et puis ensuite, on était sur scène à Garnier, mais. Connais bien la maison.
Est-ce que vous êtes allé voir la piscine? Enfin, je sais pas comment.
Non, je n'ai pas vu le réservoir d'eau.
Le réservoir d'eau
qui vide tous les 10 ans, je crois que ça coûte une blinde en plus. Et vous savez, le réservoir d'eau, c'est.
Mais surtout parce que l'opéra. Non, mais l'opéra est construit sur pilotis.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, il est tenu par la pression de ce réservoir.
Et ben, c'est génial parce que alors moi, j'ai eu la chance de voir ça. On passe dans des coursives où il y a des barreaux et on voit clairement l'eau en dessous et la manière dont l'opéra est construit. À visiter, c'est merveilleux.
Il y a un très beau film d'Alexandre Steiger d'ailleurs dans la collection. De opéra, je sais pas quoi.
Troisième scène, non ?
Ouais, exactement. Ouais. Très très beau film là-dessus, avec Judith Chemla. Bref.
Quel mensonge avait trouvé Alice Paul pour. C'est un mensonge qu'elle a dit à ses parents quand elle devait quitter Marseille pour passer des castings à Paris.
Pour faire des études ?
Non.
Elle allait se marier ?
Pas loin.
Fiancée ?
Ouais. Elle trouve un chéri, elle suivait quelqu'un.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, j'ai un copain et je vais coucher chez lui.
Oui, je dors chez lui.
Oui, bah oui, c'est pas c'est... coucher oui. avec non. lui. C'est, je dors. Non, je dors chez lui.
En même temps, si elle part de Marseille à Paris, on se doute bien. Ouais.
Non, mais... il me fallait un petit délai. Mais ceci étant, des fois, je faisais l'aller-retour en une journée. Je me rappelle une fois où j'étais arrivée, j'ai dit à ma mère, oh là, qu'est-ce qu'il a, quel temps de merde aujourd'hui. Elle m'a dit, mais non, il a fait beau. J'ai dit, non, mais le Mistral.
Non, mais ce soleil.
Ce
soleil qui tape. Il fallait mentir pour aller faire les castings.
C'est-à-dire, j'avais rien à raconter. Je disais, le jour où je leur dis, il faut que j'ai une petite base. Donc, en fait, je cherchais un travail à Paris.
C'est tellement juste.
Je cherchais un agent. J'essayais de faire des castings. Je me disais, j'ai rien à dire. Mon plan, il va se démonter en deux secondes. Donc j'avais tout un plan. Alors j'avais trouvé un travail d'hôtesse à Paris et à Marseille. Et quand j'étais à Paris, ils m'ont appelé à Marseille. Quand j'étais à Marseille, ils m'ont appelé à Paris. Donc j'étais virée des deux et j'ai jamais bossé dans ce truc.
Pourquoi Guillaume Gagnaire est-il passé par son cousin Yann pour contacter Danny Boone?
Parce qu'il le connaissait mieux.
Oui, mais pourquoi?
C'était son frère.
Pourquoi Yann, Yann connaît mieux Danny Boone que Guillaume Gagnaire?
Parce
que
son beau-frère.
Parce qu'ils ont vécu dans le Nord.
Les Hauts-de-France, il y a un lien avec la région?
Non.
Son fiscaliste, son
est-ce
banquier.
Est-ce qu'il est marié avec sa sœur? Il n'y a pas un truc de... Non.
C'est l'amant de Danny Boone.
Alors, ça, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est pas ça. Non.
C'est l'accent de Danny Boone.
Le pauvre Yann. Non, c'est pas ça.
Parce qu'il le connaît
non,
dans
non,
la
non,
vie.
Non, Fred, ne cherche pas à lire dans le regard de Guillaume, c'est moche ce que
qu'est-ce
tu fais.
Qu'est-ce qu'il fait quoi, votre cousin?
Je le regarde,
c'est beau.
Je le regarde,
c'est...
Qu'est-ce qu'il fait votre cousin? C'est un métier qui fait qu'il est en lien avec Danny Boone, mais un métier quotidien.
Non, c'est pas le métier de Yann. Il fait.
C'est le voisin de Danny Boone
dans la vie.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Non, c'est pas son métier. C'est pas son métier.
C'est un voisin.
Mais vous êtes vraiment passé par Yann pour contacter Danny Boone?
Non, parce qu'on a le même agent. Mais il se trouve qu'on s'est vu avec mon cousin Yann, en effet.
D'accord.
Ils ont peut-être joué ensemble?
Ouais, à quoi? Au foot?
Non. Au golf. Théâtre?
Ouais, exactement.
Au golf. Bravo.
C'est le
golf. Golf.
Tom Villa.
Ouais, Tom.
C'est le point commun.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on s'était vu. On se connaissait avec Danny, puisqu'on avait tourné dans Astérix ensemble, mais pas vraiment ensemble, donc on s'était juste croisés. Et puis,
c'est vrai que Danny vous avait proposé un rôle dans l'un de ses films?
Dans son premier film, oui, que j'ai refusé. Alors lui, il dit, il voulait pas, mais c'est faux. C'est parce que j'étais au théâtre.
Enfin, ça vous sert pour refuser plein de trucs que vous ne voulez pas. De dire,
ouais, c'est
pas.
Plutôt l'inverse. C'est que malheureusement, je passe à côté de projets, mais c'est un choix. Hein. Je donne toujours priorité à la Comédie Française, donc forcément, je passe à côté de certains trucs, mais c'est pas grave. Enfin, je le regrette absolument pas.
Dans la voix, on sent quand même des regrets.
Non, vraiment.
Ah ouais, le rôle de Sissi, par exemple. On ne l'a pas proposé,
alors que pourtant j'avais perdu du poids pour le corset. Et tout.
Ouais. Alors, vous êtes dirigé par Jalil Lesper. C'est donc lui qui a eu l'idée de faire le dindon, mais c'est quand même vous qui avez mis la main à la pâte sur le
avec
scénar.
Lui et Fadette Roy, on l'a co-adapté ensemble.
Alors, est-ce que l'on peut adapter du fait d'eau lorsqu'on sait que les didascalies sont extrêmement précises et les indications sont très précises lors de l'écriture de la pièce?
Des indications de scène, hein.
Oui, jeu.
Oui, mais de scène par rapport vraiment à un plateau de théâtre. C'est pas du tout des indications. Ce sont des indications vraiment en disant il remonte au deuxième plan, il va à la cheminée. Oui, bon, bah ça.
Il claque trois fois la porte.
Oui, mais bon, ça.
Ça joue pas.
Non, on pouvait l'adapter quand même sans problème.
L'écueil, c'est de faire du théâtre filmé, en fait. Oui. C'est ça la difficulté. Oui. C'est comment arriver à faire de cette œuvre une œuvre de cinéma. Alors, comment. C'est quoi les garde-fous de départ pour pas sombrer justement dans une simple copie d'une captation sur une scène?
C'est beaucoup une façon de filmer, surtout entre d'abord permettre ce qu'on ne peut pas avoir au théâtre, c'est-à-dire le gros plan, ce qui permet aussi des finesses de jeu, de jouer moins large, en même temps de garder un jeu physique, ce que fait par exemple très très bien Danny Boone dans le film, mais de faire rire aussi par le corps, mais ça c'est vraiment des histoires de valeur de plan. Et puis, il se trouve que l'originalité du projet, c'était aussi de le transposer dans les années 60, ce qui permet de sortir Fedo des froufrous et des cocottes, et en même temps de garder une facture esthétique des années 60 entre le côté cinétique, Vasarely et tout ça, et en même temps Tantivonne. Voilà, de jouer sur ces tableaux-là.
On va saluer Pierre Kefeléan, qui est le chef d'écho du
Malvine Fontaine pour les costumes.
C'est dingue,
je suis d'accord avec vous.
C'est dingue. Le film est beau, l'habillage aussi, le générique, comme les comédies des années 60-70, c'est vraiment...
On avait envie de ça.
On est dans l'époque.
Ouais, c'est vrai qu'on pensait beaucoup à ces pièces qui ont été adaptées en film, comme Oscar ou Pouic Pouic, et puis en même temps, les délires dans les comédies italiennes, on voulait ces films-là qu'on aime depuis l'enfance.
Et avec une histoire qui est totalement intemporelle, parce qu'elle pourrait s'appliquer à toutes les générations.
À part dans certains pays aujourd'hui où c'est interdit, mais oui.
Tout le monde trompe tout le monde. J'ai résumé ou pas ?
Oui, c'est ça. Et surtout, tout le monde fait acte de faiblesse. Moi, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu le film, j'ai vu avec le public, donc c'est toujours plus rigolo quand on voit une comédie avec le public. Du coup, au bout d'un moment, tu te laisses emporter gens. Ouais. Et c'est vrai que c'est de voir parfois, et c'est l'avantage du cinéma, des gros plans avec l'œil qui tressaute et la panique, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Donc les mots sortent trop vite, donc ils sont pas réfléchis, donc du coup c'est pas la bonne phrase et tout est visible, quoi. C'est aussi ce qui fait qu'on les rachète, c'est qu'on dit mais il est tellement dans la galère.
Tout part. Alors pour l'histoire quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de la forme, pour le fond, vous êtes suivi par le personnage joué par Guillaume Gallienne jusque dans votre maison, votre appartement. D'ailleurs, il y a cette phrase dans la bande-annonce, vous dites « je suis marié » et votre personnage dit de toute façon...
Non, elle dit « je suis une femme respectable » et je dis « tant mieux, j'adore les femmes respectables
». Et le mari est forcément, est forcément un con, quoi. C'est
laissant cet imbécile de côté.
C'est
mon mari, un imbécile.
Oui, c'est ça, il essaie de diminuer
qui nous plaisent sont toujours des imbéciles.
Le mari des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles.
Ça, c'est bien fait. Ça, c'est...
Sauf
ça...
la justification.
Voilà, sauf que le mari en question, vous le connaissez.
Et oui.
Et c'est pas un partenaire de golf, mais de tennis.
Ouais. Exact.
C'est Danny Boone qui se pointe. Et là, vous, en fait, il cherche quand même à vous draguer, à vous séduire, à vous convaincre de tromper votre mari, de sortir de ce quotidien rébarbatif. Et aller savoir ce qui se passe dans la tête de cette femme, de votre personnage, c'est de dire non mais le jour où il me trompe, ok, oui. j'y vais.
Italien, oui.
Je lui rends la monnaie de sa pièce.
Oui, c'est ça.
Et il y en a plusieurs sur le coup. Il y a Ahmed Silla, il y a Guillaume Gallienne.
La dame s'organise.
Mais c'est ce qui est bien dans cette pièce, c'est que la femme, la bourgeoise, n'est pas complètement là en train de pleurer désespérée de l'infidélité de son mari.
C'est les femmes qui ont le bon rôle.
Si ça arrive, de mon tour, je vais tester.
Exactement, c'est aussi une manière de dire je ne vais pas subir. Après, moi, j'ai dit oui pour faire ce film. Avant tout parce que j'adore le cinéma de Jalil, et après c'est parce que c'était la modernité du personnage, quoi. Mmh. Et puis le fait que elle a toujours les phrases, les punchlines, quoi. Mmh. Donc elle est pas soumise. Hein.
Alors que ce soit les femmes, les maris ou les amants, tout le monde, Guillaume, dans cette histoire, est dépassé par les événements. C'est-à-dire que
la mécanique du rire de Fedo fait ça, c'est-à-dire qu'il empêche ses personnages de réfléchir. En fait, c'est le type qui essaye d'effacer une petite tache de cirage sur le mur et qui, en l'effaçant, va noircir carrément tout le tableau. Mais c'est vraiment ça, les personnages de Fedo. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur du ridicule, ils ont tellement peur de se faire avoir qu'ils vont empirer leur situation, mais ils sont pris dans cette machine infernale du rire. Ouais.
Tout le monde peut se tromper, c'est la baseline, mais j'ai envie de dire aussi tout le monde trompe tout le monde dans ce dindon. Le dindon, c'est vous. Vous n'avez pas envie d'être le dindon de la farce, en fait.
Je ne vais pas spoiler le suspense.
Non, c'est vrai, la pièce n'a jamais été jouée nulle part. Signé Jalil Lespère avec Alice Paul, Laure Calamy, Camille Lelouch, et puis dans les rôles masculins, Ahmed Silla, Danny Boone et Guillaume Gallienne, qui est notre invité. À partir de maintenant, Alice, Guillaume, vous n'avez rien à faire. Questions et réponses faites par Tom Villa.
Alice Paul, bienvenue dans la bande originale, une émission de culture, mais aussi de déconne.
Et... attention, parce que ma mère regarde.
Oui, alors vous inquiétez pas, on est à la radio, donc au pire, elle va pas être choquée de ce qu'elle va voir. Hein. Guillaume, bienvenue dans la bande originale, vous êtes un peu le régional de l'étape.
Hein. On s'est déjà vu quelque part. Non.
Oui, si, c'est ce que je viens de dire, voilà, dans la bande originale, présentée par Nagui.
Voilà. L'homme aux 10 000 femmes.
Oui. Et aux 3 hommes et un pamplemousse.
Un monument de son vivant.
Oui, ça va, on a compris. C'est surtout, n'oubliez pas les paroles sur France 2. Donc ça,
les gens, ils se prennent ça dans la gueule tous les soirs.
Eh oui. Mais doucement quand même, hein. Vous parlez de mon patron quand même. Hein.
Calme-toi, Coco.
Non, désolé, il y a des choses que je supporte pas. Alice, on est d'accord, Nagui, il est gentil.
Il rit très très fort.
Oui, bon, bah, ça c'est un petit souci. Merci Alice. Revenons au film. Guillaume, vous êtes aussi réalisateur, ça a dû changer votre façon de travailler un peu sur un plateau de tournage.
On considère que la contingence est plus importante qu'un être.
Alors si vous pouvez baisser l'intelligence de 10 points, juste pour moi, c'est perso, c'est pour que je comprenne, hein. Jouer du Fedo, ça vous fait quoi?
Ça, je kiffe.
Voilà, ça, c'est des réponses de mon niveau. Voilà. Et puis sinon, jouer avec Alice Paul, c'est...
comme Alice au Pays des Merveilles.
Oui, non, c'est pas la question. C'était une belle expérience de jouer avec Alice?
Waouh, c'était rock'n'roll.
C'est-à-dire? On se dit quoi quand on joue avec elle?
On va juste lui prendre la main et l'aider, et on va gagner du temps.
Non, ça m'étonnerait. Alice est formidable. Alice, vous l'avez vécu comment, ce tournage?
C'est une cata.
Ah bah d'accord, très bien. Bon. Finalement, Alice, vous auriez aimé faire autre chose qu'actrice dans la vie?
J'aurais adoré être assistante magicien.
Non, mais vous auriez pas une idée de reconversion un peu moins compliquée, peut-être?
Surfeur à Cassis.
Ah, Cassis, le soleil, ses plages, c'est magnifique. Hein.
Très très beau. La Bretagne.
Oui, voilà, Cassis en Bretagne. Voilà, Guillaume Gallienne, on va continuer cette interview. Vous pensez, non, on va
y aller. Déjà, j'ai envie de me pendre.
Oui, évidemment. Mais, allez, on va terminer. Alice, pour finir, là, vous venez de jouer du Fedo. Si vous deviez faire un biopic d'une star, vous aimeriez incarner qui?
C'est Jean-Pierre Papin.
Eh ben, écoutez, on a hâte. Bonne émission.
Bravo, Tom Villa.
Bravo, Tom Villa.
Tom Villa qui va présenter un festival qui s'appelle Paris Paradis, c'est
oui,
ça?
Oui, je présente un plateau de stand-up dimanche.
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Il y a Paris vu par Tom Villa, entre autres, avec Jérémy Demey, Karim Duval. Et puis à 19h, tu présentes 100% stand-up avec Marina Rollman.
Exact,
qui fera partie aussi
très beau casting,
de la bonne. Très bien, de la bande, très bien. C'est le Parisien qui organise tout ça.
Oui.
Et ça se passe sur l'hippodrome d'Auteuil, un festival qui s'appelle Paris Paradis. 3 jours de concerts et d'humour. Ça, c'est fait. Et ça,
merci,
c'est
patron.
Dit. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. C'est gratuit. Le Dindon, c'est ce film qui...
Gratuit.
Non,
pardon.
Non, j'ai une petite conversation entre nous.
Le Dindon, ce film sort demain avec. Moi, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Laure Calamy, si vous du personnage aussi et du jeu tellement elle est dinguissime parce qu'elle est. Elle est aussi moteur de l'intrigue. J'ai envie de dire, elle vient mettre la zone dans.
Elle est totalement hystéro, donc forcément ça crée de l'électricité dans la pièce. Ouais.
Comment faire quand on est scénariste et quand on écrit? On peut pas écrire sans penser déjà aux personnages, sans penser aux comédiennes qui vont l'incarner. Est-ce que vous aviez déjà en tête le casting en travaillant avec Jalil Lesper?
Alors au fait, au départ,
honnêtement, Galienne.
Jalil avait déjà l'idée de Dany dans Vatelin, ça c'était sûr. Okay. Et il pensait à un autre acteur pour Pontagnac. Au départ, moi je voulais pas jouer. Et quand il m'a proposé, c'était juste d'adapter avec lui.
D'accord.
Et en adaptant, je me suis souvenu quand même que je l'avais joué 150 fois et que ça me plaisait. Et je lui ai dit, écoute, on a un problème parce que j'aimerais jouer Pontagnac. Et Jalil m'a dit, mais ça n'est pas un problème. Donc,
mais voilà. Il avait déjà contacté l'autre acteur?
Non, heureusement, non. Oh ben non, sinon je l'aurais pas dit.
Mais on peut donner son nom, qu'il sache le boulot qu'il a pas eu?
Non, mais sinon je l'aurais pas dit, c'est impossible.
Pourquoi?
Il est bien élevé.
Mais non,
je sais, c'est étonnant.
Le type il est distribué, on ferme sa gueule. Non, c'est affreux.
Et c'était par moyen de pression de Jalil pour vous titiller un petit peu et...
Ah non, je crois pas. Non, il s'y attendait vraiment.
C'est ce qu'il dit, lui.
Non.
Et vous avez vraiment donné le nom du comédien en question. Il vous avait dit...
Je pense à un tel, je lui ai dit très bonne idée et tout. Et puis on commence l'adaptation et puis au bout d'un moment, je dis... J'ai un problème, en fait, j'ai envie de le jouer. Et il m'a dit, c'est pas un problème.
Et Guillaume Tonquédec n'est pas au courant. Alors, c'était lui. J'essaye.
François Berléand,
non, trop vieux.
Guillaume de Tonquédec, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai eu la classe libre. Et il m'avait fait travailler et tout.
Et vous lui faites ce coup,
ensuite le casting, Laure Calamy, c'est je sais pas comment c'est venu dans le casting. Faut dire qu'il y a un très très bon directeur de casting qui a travaillé sur ce projet. Et au moment où je le dis, j'ai oublié son nom.
C'est Pierre Jacques.
Non.
Fuenkinos.
Bref. Non.
C'est Miguel.
Oui.
Laguins.
Michael Laguins, qui a fait un boulot remarquable. Et donc.
Mais Laure, j'ai tourné plusieurs fois avec elle.
Elle est dingue.
Ah oui, et puis en plus, elle est d'une extrême générosité, parce que c'est pas évident d'être très drôle et d'être effectivement de propulser autant d'énergie, et en même temps d'être ensemble, quoi. Ouais. C'est toujours une petite difficulté. Et moi, le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive plus à me concentrer tellement on rit, mais.
Parce que vous avez bossé comme une troupe, en fait. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que 15 jours avant le début du tournage, vous êtes réunis et vous avez bossé. C'est pas simplement.
Vous avez fait des italiennes,
on a fait carrément au début, on a fait des lectures, mais surtout après, on s'est lancé dans les vraies répétitions, dans l'espace. Donc c'était vraiment comme au théâtre, quoi, comme si on allait.
Pour créer des automatismes. Quoi.
Et ça nous a énormément aidé, je pense.
C'est quoi, il y a les italiennes et les allemandes, c'est ça?
L'italienne, c'est quand on dit le texte sans bouger, une allemande, c'est en faisant les déplacements. En disant le texte et en faisant les déplacements, mais sans investir le jeu. C'est ce qu'on appelle sur un tournage une mécanique.
Oui.
D'accord. Et ça, vous l'avez fait sur une scène de théâtre, dans un huis clos, dans une salle.
Ouais.
Tous ensemble réunis.
Mais ça crée
Pour gagner, alors que un film, on s'arrête, on coupe, on monte, on fait plusieurs prises. Là, c'était pour gagner quoi? On n'a pas fait ça.
On coupait pas avec Jalil.
Oui, c'est vrai.
Il nous faisait refaire les scènes en entier.
Ah ouais.
90 fois par jour. Moi, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Mais en été, mais sur les rotules.
Pour les conséquences, pour avoir le rythme du.
Parce que le rythme est tellement compliqué que s'il y en a un qui s'endort un peu, si on démarre au milieu, on n'était plus dedans, quoi. C'est de la musique. Donc à chaque, même si on n'était pas à l'image, on recommençait quand même, on y allait à fond. Donc il fallait du coup qu'il y ait quand même une unité entre nous. Et une envie d'y arriver ensemble, quoi, parce que...
Ça sort demain, ça s'appelle Le Dindon, on va continuer d'en parler, évidemment, mais chaque semaine, il va nous parler de pop culture, d'actu geek, c'est le blockbuster de Frédéric Siris.
Alors, samedi dernier, avec mes enfants, on a fêté l'anniversaire de Batman. Je sais ce que vous allez me dire, c'est délirant de fêter l'anniversaire d'un personnage de fiction. Oui, on en reparlera à Noël quand on fêtera l'anniversaire du type qui marche sur l'eau et qui transforme la cristalline en merlot. Cette année, Batman a eu 80 ans, 6 ans de plus qu'Alain Juppé, hein, comme quoi le sport ça conserve. Et depuis tout petit, moi je suis fan de Batman, hein, si les auditeurs qui m'écoutent l'ont compris, c'est vrai, je suis fan de Batman. Il y a même eu un moment de ma vie, où je rêvais de devenir Batman, même si physiquement je ressemblais plutôt à un Kouign-Amann. Mais tu t'en rends pas compte, parce que quand t'es enfant, tu vois pas les points négatifs à la vie de super-héros. Tu vois, le manque de sommeil, le sport intensif, les coups des blessures, l'investissement financier, le problème de la digestion dans un costume trop moulant. Ah oui. Il peut rien se permettre comme écart, Batman. Hein. Et enfant, tout ce que tu vois, c'est le swag, le héros en haut d'un gratte-ciel en train de contempler la ville. Alors que moi, déjà à 3 mètres, j'ai le vertige. Si un jour je saute d'un immeuble, c'est qu'on m'aura poussé. Ouais, ce sera sûrement un lecteur de Valeurs Actuelles qui voudra se venger de toutes les chroniques moralistes de France Inter.
Tu m'étonnes.
Mais enfant, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est arrêter les méchants. Tu sais pas encore qu'adulte, non seulement tu les arrêteras pas, les méchants, mais tu voteras pour eux. Parce que le Joker, au meilleur de sa forme, il a détourné moins d'argent que Patrick Balkany et fait moins de victimes que Monsanto. Et pourtant, c'est lui le super vilain. Mais quand j'étais petit, moi, je voulais être Batman, son costume en cuir noir, un peu comme dans les soirées de Daniel, mais avec cap. Le héros gothique.
Et pas la boule dans le visage.
Il vous a pas invité. Si, t'es accroché, mais c'est rigolo. Enfin, bref, c'est ludique. C'est le héros gothique hyper badass. Batman, c'est Clint Eastwood relooké par Cédric Villani. Un mélange de virilité exacerbée et de dépression pas soignée. Parce que c'est vrai que Batman, il a un côté dark totalement assumé. C'est Mylène Farmer avec des pecs, hein, Batman. Je voulais tellement être Batman que je forçais mes parents à prendre toutes les petites ruelles un peu glauques dans l'espoir qu'on tombe sur un criminel qui les bute. Alors, parce que d'accord, je sais, j'aurais été orphelin, c'est pas cool, tout ça, mais déjà, orphelin, j'aurais pu me faire adopter par Angelina Jolie ou Madonna, parce que j'étais un beau bébé aux cheveux frisés, j'aurais totalement pu passer pour un ami bien, et deux, j'aurais eu un costume qui déchire. Et puis j'ai réalisé que c'était horrible de penser des trucs comme ça, surtout que pour être Batman, ok, faut être orphelin, mais surtout, faut être millionnaire.
Bah ouais, faut être blindé.
Et ça, il y a une barrière financière évidente. Devenir Batman, c'est comme devenir propriétaire à Paris. C'est pas à la portée de tout le monde. Autour de cette table, par exemple, il y en a peut-être un qui pourrait devenir Batman et il rentre pas dans le costume. Devenir Batman, ça reste une manière de faire son deuil réservé aux très 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 riches. Bruce Wayne, niveau décalage avec la réalité, il est pas loin d'Ariel Dombal. Il vit dans un autre monde. Parce que toi, t'es équipé chez McDo, tes parents se font assassiner, et ben on va te donner 3 jours de congé pour t'en remettre et tu reviens bosser. Tu vas pas faire un tour du monde pour étudier la criminologie et les arts martiaux. Tu reviens retourner tes steaks et tu fermes ta gueule. C'est ça la réalité quand t'es pauvre. Je crois qu'on mesure pas à quel point Batman, c'est un super-héros du CAC 40. Parce que lui non plus se rend pas compte. Mais Batman, c'est un fils d'eux. Sa fortune, il la doit à ses parents, Thomas et Martha Wayne. Bruce Wayne, c'est un peu le Arnaud Lagardère de Gotham City. Alfred, son majordome, la version Downton Abbey de Bernardo, le copain muet de Zorro. Le type, il l'a élevé à la mort de ses parents. Alfred, c'est lui qui lui fait des points de suture quand il revient défoncé. Eh ben, adulte, il continue d'appeler Batman Maître Bruce et de l'attendre avec un verre de lait et un sandwich quand il revient de mission. Je sais pas, t'élèves Batman pendant 20 ans. T'attends un minimum de reconnaissance. Enfin, tu vas pas être sur l'héritage, mais au moins tu te dis on va assouplir le protocole. Eh ben, le mec, pour te récompenser, c'est à peine s'il te donne ton samedi. Mais attention, j'adore toujours Batman. Je sais qu'il veut bien faire. C'est juste que Batman, il gère sa carrière avec l'arrogance d'un gosse de riche. Il est dans le culte de la personnalité. La voiture de Batman, c'est la Batmobile. La base de Batman, c'est la Batcave. Le bateau de Batman, c'est le bateau. Et pour l'appeler, tu n'utilises pas un téléphone ou t'envoies pas un SMS. T'es obligé de projeter son logo géant dans le ciel de Gotham. Le boulard du gars. Même Emmanuel Macron, il fait pas des trucs comme ça. Et on parle d'un type qui a appelé son parti En Marche parce que c'est les initiales de son prénom. Tout ça pour dire que quand j'étais petit, je rêvais de devenir Batman. Mais en grandissant, bah, j'ai réalisé que j'étais de gauche.
Bravo, collectiviste.
Midi sur France Inter.
C'est vrai qu'avec cette musique, on est immédiatement dans la comédie des années, dans les comédies des années 60, voire 70. Il y a aussi dans la BO du film. Ça met déjà de bonne humeur, quoi. On l'entend, on a le smile et on a envie de danser et de bouger. Il y a beaucoup de musique d'ailleurs présente dans ce film. On va parler de non pas de la bande originale du Dindon, film qui sort demain, mais de la bande originale de vos vies, avant de recevoir Aude de Tocqueville, qui est historienne et qui va nous parler de l'adultère qui est très présent dans le Dindon. On va commencer avec vous dans les années 70 avec... 90, pardon.
Je me suis rendu compte après.
Ça, c'est vous, Alice Paul, qui écoutiez Police.
Oui, j'adore écouter Police. J'écoutais ça dans la cour d'école, souvent avec ma sœur.
ça me rappelle de beaux souvenirs.
Parce que Paul, police, vous a dit, vous étiez concerné pas du tout.
Ah non, rien à voir, non.
J'ai mon nom dans le nom du groupe, c'est trop la classe.
Ah non, pas du tout. C'est comme Paul Édition, aucun lien. Enfin, je crois pas.
Édition Paul. Il y a des champagnes aussi, il y a des champagnes, je crois, qui portent
Paul Roger.
Ah oui, ah bah aucun lien non plus, mais je vais envoyer un petit.
Ah bah oui, demandez des caisses à tous.
Sur un malentendu, si ça peut apporter deux caisses.
Ça vous renvoie, t'as vu la rapidité de Tom Villa pour trouver la marque de champagne. Quelle image avez-vous en écoutant police? Didoudou dadada.
Ah, j'ai une image très très joyeuse de démarche un petit peu chaloupée dans Marseille, voilà.
De parce qu'avec ça dans le casque ou parce que vous aviez dans
des... Oui, j'avais tout le temps de la musique dans le casque. Enfin, toujours, j'ai gardé cette habitude. Des fois, c'est un peu trop, je me rends compte, mais je...
Ça vous isole un peu du monde extérieur, quoi.
Oui, mais et en même temps, ça isole et en même temps, je regarde aussi. Donc, je me raconte des histoires sur ces musiques, celles-là, entre autres, mais voilà, non.
Vous commencez le théâtre à l'âge de 15 ans, je crois. Après le bac, vous enchaînez une sorte de période un peu d'hésitation sur la discipline à envisager à la fac. Lettres modernes, histoire de l'art, droit.
Philo, oui.
Ouais, sorte de petit... On teste, quoi. Votre famille, elle vous imaginait dans quoi? Vous voyez dans quoi? Parce que je crois que votre père est médecin.
Oui, mon papa est médecin, ma mère était infirmière. Non, j'ai une scolarité assez... pas bonne, quoi. Il y a eu des moments de perte d'espoir.
Ah, c'est pas bonne, surtout en français, d'ailleurs, je crois.
Non, c'était au contraire la seule matière où ça passait. Donc, c'est en plus, je régresse. Non, j'étais bonne qu'en poésie, voilà. Mais non, j'ai eu une scolarité assez déplorable. Et après, assez curieusement, j'ai eu le bac avec une mention et tout ça. Donc, tout le monde s'est dit, ah bah, en fait, tout on arrive à faire des études.
Quand elle bosse, ouais, ça
oui, quand
fonctionne.
Oui, c'est ça. Démasqué. Et donc, on s'est retrouvés avec ma mère à aller rencontrer une dame pour faire une prépa pour être orthophoniste. Et ma mère a quand même confié, elle me dit, je voyais
comme
ta gueule, rendez-vous.
Une conseillère d'orientation, c'était quoi?
Non, c'était une prépa pour réussir cette entrée au concours. D'accord. Qui est assez difficile. Donc là, juste un pied dedans, j'ai dit, ça va pas le faire. Et la fac, je sentais qu'il y avait un espèce de truc un peu libre en termes d'horaire.
Ouais.
Pour aller prendre des trains, faire des allers-retours.
Complètement libre, ouais, complètement libre.
Voilà, et mon autre sœur m'a dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui était à la fac avec toi, qui m'a dit que tu passais beaucoup de temps sur un banc. J'ai dit, ah, c'est possible. Mais c'est des années d'errance, quoi. J'ai beaucoup. Non, c'est vrai, j'ai erré.
C'est dommage, c'est perdre du temps aussi.
Je sais, je m'en veux beaucoup.
Ou
encore.
Alors, est-ce que c'était des moments où vous lisiez, des moments où.
Même
vous...
pas. Mais je peux rester assis à un endroit pendant des heures et partir dans ma tête. Et j'ai toujours été comme ça. Oui, très. Et après, ça m'a. Mais c'est ce qui m'a aidé à choisir ma passion. Et dès que j'ai eu ma passion, ça a été plus simple, n'ayons pas jusque-là. Mais...
Guillaume Gallienne, dans ses années, fin des années 90, vous écoutiez. Rachida et Araya, ça correspond à quel moment de votre vie, cette musique?
Ça correspond...
en tout cas, ça a l'air bien, parce que
bon
vu
délire,
la tête que vous faites...
Non, mais un bon délire...
Vous aimez danser là-dessus?
Ben, j'adore danser là-dessus, entre autres. J'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours aimé ce qui était exotique, ce qui était... le métissage, ce qui était, voilà, brasser les cultures, les langues, et je l'ai toujours fait. On m'a accusé de snobisme, parce que je peux switcher de temps en temps. Je trouve que l'expression marche mieux en espagnol ou en anglais.
Parce que vous employez parce que vous parlez plusieurs langues,
moi-même.
On vous traite de snob.
Oui, bon, mais je m'en fous complètement, hein, ça va, j'ai 47 ans, ça va, je sais pas. Mais j'ai toujours aimé le brassage, en fait.
Bien sûr.
Et rencontrer des gens et voyager. Mes parents m'ont fait voyager très très jeune.
Et pardon, pour revenir à la musique, qu'est-ce qu'elle vous apporte, la musique, dans la vie?
Elle me permet d'abord de me taire, ce qui est rare.
Ça marche pas sur tout le monde.
Ah ouais?
Regard méchant qui m'envoie, je rêve.
C'était la dernière émission.
C'est dommage. Chômeur à 11h42. C'est tout ça.
Tu vas avoir le temps de fêter l'anniversaire de Bob.
Ah ouais. Non. Tous les décis.
Chômeur, tu seras pas invité.
Voilà, elle me permet de me taire et de me lâcher,
de voyager
en contrôle et puis de relier un peu plus ma tête et mon corps, ce qui là aussi, et ça me fait bien.
Et dans cette époque-là, c'est 98, je crois, vous intégrez la troupe de la Comédie Française.
Oui, ça s'est fait en deux temps, parce qu'en fait, je suis rentré en tant qu'élève stagiaire en 96 et j'ai été nommé pensionnaire en 98. Ouais.
D'accord, 98 et sociétaire en 2005.
Ouais.
Voilà pour les étapes. Est-ce que finalement, se dire j'ai envie de bouger, j'ai peut-être envie de voyager, Est-ce que c'est compatible avec une entrée à la Comédie Française où on sait qu'il va falloir... Il va falloir montrer un peu de résistance.
Mais c'est justement mon côté errant et nomade et tout ça fait que j'ai besoin d'un socle et j'ai besoin d'un cadre pour pouvoir, après moi, m'exposer, mais quand même me tenir. Parce que sinon, c'est comme je travaille beaucoup pour ne pas être au Blom-off, parce que sinon, la robe de chambre...
Reste allongée toute la journée.
Aucun problème.
Il est inimaginable pour vous de quitter la Comédie Française ?
Ah si, je l'ai envisagé d'ailleurs. Là, je l'ai envisagé après, quand j'ai rendu mon rôle de Lucrèce Borgia, où vraiment je voulais arrêter de jouer en général.
Vous étiez incroyable.
Enfin, j'ai cru crever. Et donc,
la mort, on voit bien.
Et puis, Eric Ruff m'a dit, réfléchis. Et parce que c'est lui c'est pas Montaigne mais parce que c'est lui et puis parce que quand même la troupe est tellement belle aujourd'hui et les aventures théâtrales qu'Éric Ruff nous fait vivre sont tellement dingues que je me suis dit ok, mais je lui ai demandé un an de congé, donc je suis parti enseigner aux États-Unis, prendre un peu de recul et puis... Mais il faut faire attention, c'est vrai que c'est un confort, c'est un luxe, il faut faire attention au confort quand on est artiste, c'est très dangereux.
Et alors pour aller plus loin, si vous n'imaginez pas, ou si vous avez imaginé quitter la Comédie Française, à l'inverse, imagineriez-vous de la diriger ?
Non, pas du tout, c'est drôle, ça a été un fantasme que visiblement certains avaient sur moi au début. Je me souviens, une sociétaire avait dit une approche à l'administrateur.
Dit sur ce ton-là, ça donne envie surtout. Ah, oui.
Mais non, pas du tout, j'en serais incapable parce que je ne suis pas du tout politique. J'aime beaucoup être avec des politiques. J'aime beaucoup les personnalités politiques parce que je trouve que c'est un sacré engagement et je n'aime pas qu'on les dénigre systématiquement. Mais moi, je serais nul. Je suis nul aux échecs. J'ai jamais 3 coups d'avance. J'ai pas le recul qu'il faut. J'ai pas la hauteur nécessaire.
En 2008, Alice Paul, vous écoutiez Phoenix.
Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Ça groove.
C'est pas mal. Et en 2008, on vous retrouve Alice dans Vilaine de Jean-Patrick Bénès et Alain Mauduit. Vous vous souvenez de la partition que vous avez dû à composer pour ce film ?
Alors je m'en souviens comme si c'était hier, d'autant plus qu'ils ont vu tout Paris pour ce rôle. À la base, il fallait quelqu'un de bankable, donc autant vous dire que j'avais fait 3 figurations et une pièce de théâtre. Peu connu.
Il y avait du monde qui vous avait vu sur le banc de la faculté.
C'est vrai. Apparemment, d'après mes sources, qui sont très sûres. Mais voilà, toutes ces années, vous voyez, m'ont aidé. Non, et en fait, j'ai quand même fait 4 castings pour avoir ce rôle. Donc, je peux vous dire que je connaissais ma partition sur le bout des doigts.
Il fallait incarner une bimbo.
Encéphalogramme plat. C'était ça
la description de base.
Le regard.
C'était écrit comme ça.
Et comment on fait ça?
C'était ce qu'on s'est raconté avec les metteurs en scène. Eh ben, il faut se laisser aller, faut partir, quoi. Faut pas se juger, faut pas se mettre de barrière. Mais de toute façon, les personnages de cons sont généralement parmi les plus passionnants à jouer, bien sûr. Et puis, c'est l'enfance aussi. Parce que ça dépend de ce qu'on définit. Bon, elle était vraiment con, c'est vrai. Il y avait pas.
Mais pardon. Ce qui se passe un peu dans le dindon, c'est que chacun a son moment de connerie aussi. Tous les personnages passent par cette phase-là de...
Oui, puis c'est toujours ce truc de « on est toujours le con d'un autre ». Là, dans ce film, c'est clairement ça. Et puis surtout, le fait d'être amoureux ou d'avoir simplement envie de quelqu'un ne rend manifestement pas très très futé.
2008, pardon ?
Non.
Je croyais que vous vouliez dire quelque chose. En 2008, Guillaume Gallienne, vous écoutiez... Ce sont les paroles qui vous attirent, vous qui êtes parfaitement bilingue dans un premier temps, c'est pas le cas tout le monde.
Les deux, elle a un accent, elle est géniale cette chanteuse. C'est ma femme qui adorait cette chanson en fait, on l'écoutait ensemble. Mais j'aime bien aussi ce qu'elle raconte sur les tournées et tout ça, sur le fait d'être complètement décalé, de dire... c'est quoi le what's next et de pas savoir et j'aime beaucoup cette chanson. Ouais.
Et à cette époque-là, Guillaume, vous faites une remarque sur les bonus de DVD. On a tous eu un DVD entre les mains avec des bonus plus ou moins intéressants sur des infos un petit peu supplémentaires. Et vous avez une superbe idée que vous avez développée pour Canal, c'est les bonus de Guillaume.
Ouais.
Racontez-nous avec de faux bonus pour les films.
En fait, c'est Christelle Graillot de Canal+ qui m'avait appelé en disant on aimerait vous proposer un programme court. concours sur Canal et j'ai dit ben non. Et puis et elle m'a dit mais et elle a été très forte. Elle m'a dit non mais ça m'étonne pas évidemment en tant que sociétaire de la Comédie Française. Ouais, ouais. Je vois pas le rapport. Il y a
vous
plein de trucs qu'on pourrait faire.
Bien, je connais.
Et, et je dis mais non mais pas du tout. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Et elle parle pas du tout comme ça. Et du coup finalement j'ai eu cette idée avec un pote à moi qui est journaliste au Japon qui s'appelle Régis Arnaud et qui m'a dit mais il faudrait faire ça en fait. C'est vrai. Et moi je déteste le côté on dévoile les coulisses et puis surtout fallait voir à l'époque on se tapait quand même des bonus les making of faits avec le neveu du producteur qui était naze et qui disait et alors là vous faites quoi bah, je fais maquillage 7h15 oui, et alors vous maquille non, c'est dur d'être maquillé
je suis d'accord c'est la parodie mais alors quand vous c'est votre métier mais pour nous spectateurs quand on entend un réalisateur commenter son film expliquer ou voir les scènes coupées de certains je vous assure que quand on quand on aime ça quand on est spectateur c'est agréable à voir pas vous Alice, vous aimez pas ça?
Mais moi, je préfère le rêve, donc j'aime pas tellement découvrir comment ça se passe derrière. J'ai envie de rester dans le.
Après, moi, je préfère les bonus de Guillaume Gallienne. Ils sont, ils sont plus drôles que les vrais.
Je suis très fan des bonus de Guillaume Gallienne.
On s'est connus avec
Judith Mathieu.
C'est vrai, vous êtes connus comme ça?
Non, oui, en fait, Alice, quand on s'est connus, m'a cité, me sortait des phrases. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a?
Je pouvais pas m'en empêcher.
Elle me disait, c'est Gabrielle Chatekel.
Il se rappelle plus.
C'est ta directrice de casting. Moi, j'avais oublié. Et c'est un truc que j'ai coécrit avec Fred Moreau, qui est une femme, une grande cinéphile qui a tout vu depuis le départ du train de la Ciotat jusqu'à aujourd'hui, mais qui en même temps, est super
c'était
trash.
C'était pas le départ du train, c'était l'arrivée.
L'arrivée, pardon.
Gare de la Ciotat.
Et elle était là avant. Elle était là avant. Oui, elle était encore là avant.
Elle est là quand il est parti.
C'est le making of. C'était le bonus. Elle a fait les bonus du Frère Lumière.
C'est bon ça.
La classe. Aude de Tocqueville, merci de venir à ce micro. Aude, vous êtes historienne, auteur de l'histoire de l'adultère.
Quel bon nom.
Merci.
La tentation extra-conjugale de l'Antiquité à nos jours, vous l'avez publié avec Sabine Melchior-Bonnet aux éditions de La Martinière. Et dans un autre domaine, vous allez publier en novembre, pardon, l'Atlas des terres sauvages, c'est ça?
C'est ça.
Chardon, ça je le redirai tout à l'heure. Alors, qui a décidé qu'il fallait être fidèle? On a l'impression que c'est dans la nature humaine.
Ah, mais complètement. Depuis que le monde est monde, on est fidèle, infidèle. C'est vraiment. La fidélité et l'infidélité, ce sont des notions qui existent depuis toujours. Et c'est la société, évidemment, qui a instauré cette obligation d'être fidèle depuis la Grèce antique jusque dans les années 60.
C'est la société ou la religion ?
Alors, c'est le discours juridique, puis le discours religieux. Les deux. D'abord le discours juridique, parce que, en fait, l'histoire de l'adultère, c'est très simple. C'est vraiment, ça n'a quasiment pas évolué de la Grèce antique à aujourd'hui. Enfin, aux années 60, surtout. C'était les femmes sont coupables. Et les hommes sont des victimes.
Ah,
et ben oui, parce que les femmes, elles procréent. Donc, quand on peut faire des, il y a un horrible mot, des bâtards. Eh bien, ça brouille les filiations, l'héritage, le patrimoine. Donc, l'histoire de l'infidélité, enfin, à travers les âges, vraiment à toutes les époques, jusque dans les années 60, parce qu'après tout a changé. À partir du moment la libération des femmes, l'émancipation, la libération du sexe, tout a changé.
Donc initialement, c'est pour maîtriser la lignée.
Ah mais complètement.
Voilà, imposer la fidélité.
Vous imaginez
pour
les problèmes à l'époque. Ouais. Et...
Mais de la même manière que les prêtres n'ont pas d'enfants pour les problèmes d'héritage.
Ah.
Oui, pour mais comme ça, tout
l'Église catholique.
L'Église catholique, oui. Catholique, oui, pardon.
Vous savez ce qu'elle disait, l'Église? Elle disait l'État.
C'est ce qu'elle te dit, l'Église.
Elle disait il est infâme d'aimer sa femme. Autant que sa maîtresse, aussi bien que sa maîtresse. La femme, il fallait qu'elle soit vraiment gardienne du foyer,
la Vestale, quoi.
Sage, prude, sérieuse. Ouais. Et les maîtresses, c'était fait pour le plaisir.
Une question qui nous vient
de maman et la putain, quoi. Enfin, toujours
ouais,
pareil.
C'est ça.
Question exactement. Qui nous vient d'un auditeur, Daniel M. de Paris.
C'est bon, ça.
Pourquoi faut-il être monogame?
Ah bah ça c'est une question totalement personnelle aujourd'hui. Hein.
C'est vrai. T'as compris
c'est plus reposant. C'est plus reposant Daniel pour toi.
Non mais
la monogamie en fait, ça a eu des siècles.
Comment est née la monogamie?
Eh ben elle a au départ personne n'était monogame. Enfin il y avait le discours juridique qui disait l'homme.
Non, on parle pas de vous madame, mais en général.
Merci. Mais la femme, je vais vous raconter une petite anecdote.
Ah, quand même, on
est arrivé. Ça restera entre nous en plus.
Oui. Juste entendu. Non, c'est mignon. Quand j'ai sorti ce livre, donc l'histoire de l'adultère, mon mari, qui a beaucoup d'humour, disait d'une manière très très sérieuse, ma femme n'écrit que sur ce qu'elle connaît très bien.
C'est
mignon.
Classe.
C'était assez drôle. Et pour revenir à la monogamie, ça a mis 10 siècles à s'installer. C'est le christianisme, en fait, qui a installé au 13e siècle la monogamie, le mariage sacré, un sacrement indissoluble. Mais c'était pas du tout à l'époque grecque, romaine. Les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais c'était juste les femmes. Il y avait vraiment une inégalité.
La fidélité, elle est définie par la pensée ou par l'acte? C'est-à-dire qu'il y en a qui trompent uniquement par l'esprit, c'est-à-dire...
Je sais pas, on peut poser la question, la princesse de Clèves, qui est le premier roman autour de l'adultère, mais elle n'a jamais couché avec le duc de Nemours. Son mari en est mort, parce qu'en général, les histoires d'adultère, ça se termine très mal. C'est pour ça que je reviens au Dindon. C'est un vaudeville. Ce que j'ai trouvé très amusant, c'est que c'est vraiment un hymne à l'adultère joyeux. Parce que dans la littérature, c'est tragique. Ouais. Dans les films, il y a plein de films épouvantables. Et alors, j'ai une question à poser à Guillaume, qui est quelqu'un de très cultivé.
Attention,
est-ce que dans tous les vaudevilles, il y a ce côté moral? Parce que finalement, vous disiez à Alice que vous n'étiez pas soumise, mais au bout du compte, vous n'avez couché avec personne. La maîtresse, dans le Dindon, elle a toujours avec son masque de beauté, elle est ridicule. Et vous, vous n'arrivez pas à vos fins.
Non.
Vous êtes le cocu magnifique. Enfin, pas le cocu, justement. Oui, et justement, le mari, eh bien, finalement, vous l'excusez quand même très facilement. C'est un film très moral, en fait. Alors, est-ce que les vaudevilles étaient comme ça?
Alors, je ne sais pas si Fedo était si moral, parce qu'il a quand même terminé à l'asile. mais y avait quand même une pensée à l'époque qui faisait qu'on pouvait aller loin à l'intérieur du délire, mais il fallait que ça se termine, entre guillemets, bien pour le bourgeois. Hein. C'était 1896.
L'ordre établi.
1896, fallait quand même faire attention. Il y avait une sorte de censure, en tout cas morale.
Alors, si on peut revenir à notre époque actuelle sur la fidélité et l'infidélité, avec les applications...
Beaucoup de questions, Nagui, beaucoup de questions.
Avec les applications, avec les tentations, avec Internet, est-ce que c'est beaucoup plus facile de tromper, d'être infidèle?
Bien sûr, jusqu'à la dépénalisation de l'adultère, en 75, il y avait des flagrants délits.
L'adultère était puni.
Oui, tu pouvais le constater.
Non, mais de la femme. Oui. C'était la femme qui était punie, pas l'homme. L'homme qui trompait...
C'était terrible, oui. La femme, mais vraiment à toutes les époques, elle pouvait être en prison, au couvent, au XIXe siècle.
Écoute bien.
Un homme qui se fait avoir en flagrant délit.
Écoute, le mari qui trompait en dehors de son domicile conjugal n'était pas jugé, n'était pas condamné.
Absolument.
Alors que la femme, ou quoi qu'elle fasse, où qu'elle soit.
Jusqu'en 75.
Ouais.
Oui, tout à fait. Il y avait vraiment une inégalité incroyable dans les punitions. Mais à partir, d'ailleurs, c'est amusant, pour écrire ce livre, j'avais été interviewée d'ULUC, vous savez, l'agence de détective de la rue du Louvre.
Oui. Sophie Kahl avait
et alors, c'était drôle, parce que jusqu'en 75, 90% de leur chiffre d'affaires, c'était des flagrants délits d'adultère. Et en un mois, il s'est passé à 5%. Ils ont dû réinventer complètement leur métier.
Ce que je vois, en tout cas, c'est que tout le monde connaît l'adresse du détective privé.
Oui, parce que Sophie Kahl avait fait un super projet, elle avait demandé à ce détective de la suivre à elle-même et de documenter ça, le fait d'être suivie par un détective qu'elle a elle-même engagé.
Et l'adultère, ce qui est bien dans le film Le Dindon et dans la pièce de Fedo, c'est qu'il, la fidélité fonctionne des deux côtés, c'est-à-dire c'est aussi bien l'homme que la femme.
Et ben heureusement. c'est vraiment, mais c'est ça qui est.
Oui, c'est juste qu'elles se font pas choper, quoi.
Oui.
Enfin, c'est tout. Mais sinon, la proportion, à mon avis, est exactement la même.
Dans quel sens vous employez ce terme?
Il y a un sondage qui dit qu'aujourd'hui 55% des Français trompent leur femme et 33% des femmes trompent leur mari. Donc il y a une inégalité, c'est pas la même
55
chose.
55 pour les hommes,
33
pour les femmes.
Il y en a qui
55% des hommes ont déjà trompé leur femme et 33% des femmes ont déjà trompé leur mari.
Parce que c'est plus cette table, on sait.
Ça fait beaucoup de célibataires femmes, tout ça.
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui mentent, en vrai. Qui n'ose pas dire,
c'est possible.
Oui, qui n'ose pas dire que.
Ou qu'il y a beaucoup d'hommes bisexuels.
Ça change pas finalement.
Ouais, non, ça change pas.
Et l'infidélité, c'est ce qui se passe aussi dans le film, s'excuse.
Bah oui, on voit que tout ça est...
Je parle pas du film, là, je parle maintenant de vous, de votre vision de sociologie.
Est-ce que
depuis que l'on peut facilement divorcer, se séparer, les gens qui sont infidèles se séparent ou finalement ils continuent ensemble?
Non, la fidélité c'est quand même le socle du couple. Après, à partir de 75, c'est devenu vraiment quelque chose de totalement intime, de cet engagement, ce mariage. Avant, il y avait les mariages, c'était des comptes, c'était des transactions. Et aujourd'hui, les mariages sont les mariages d'amour. Les mariages d'amour depuis enfin, c'est arrivé très tardivement, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale. À peu près les mariages d'amour.
Donc les mariages qui tiennent.
Donc maintenant qui tiennent, on s'engage après. Ben, oui, ça tient mieux quand même, s'il y a ce socle.
Ouais,
normalement.
Enfin, c'est une bonne base, oui. Mmh.
Ouais. Enfin, sauf si les deux, il y a des couples.
Certains, on se demande. Ouais. Mais bon.
Et vous êtes excusé auprès de votre mari ou pas, Aude?
Excusé de quoi? D'avoir écrit ce livre.
D'avoir trompé. C'est fou. Je rappelle donc votre livre, Histoire de l'adultère, la tentation extra-conjugale de l'Antiquité à nos jours, publié avec Sabine Melchior-Bonnet aux éditions de La Martinière. Et puis ce nouveau livre qui n'a rien à voir avec l'adultère, qui s'appelle L'Atlas des Terres Sauvages, publié chez Artaud. Merci Aude de Tocqueville d'être venue à ce micro et de vos amitiés à votre mari, de vous avoir laissé la liberté de vous exprimer. Tanguy, pas
Black,
sûr.
Oh ouais. Black France
Culture. Yes. Tant, mais tu vois, je la souligne quand même. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez déclarer votre amour, vous, mais à la Norvège.
Oui, parce que jusqu'à présent, ce pays était à l'origine de bien des malheurs. En 85, il nous a donné le groupe AA, un peu plus tard Eva Jolie. Mais ça, c'est fini, on kiffe la Norvège. On a envie de se rouler dans la neige en slip, en peau d'élan, avec la population de cette fabuleuse contrée, parce qu'ils ont trouvé une solution, Nagui, pour sauver le climat. Vous allez voir.
Il y a un gros débat sur AA, sont-ils suédois ou norvégiens? Mais non, je crois que... Non, tu crois que t'as raison, c'est norvégien.
Norvégien, oui, pardon. Oui.
Sûr. On en parle après les infos de midi. La bande originale avec Léna Cadeau-Rogelis, Daniel Morin, Ben Villa, Tanguy Pastureau, Frédéric Siglis, et nos invités Alice Paul et Guillaume Gallienne.
Bonjour.
Bonjour. Le Dindon sort demain avec vous, Alice Paul, également Laure Camille Lelouch, avec vous, Guillaume Gallienne, également Danny Boone et Ahmed Silla. Le Dindon réalisé par Jalil Lesper, qui ne nous avait pas vraiment habitués à faire des vaudevilles ou à faire du fédo au cinéma. Savez-vous comment l'idée est née dans son esprit, Guillaume?
Faudra lui demander.
Non, vous avez travaillé avec lui, vous avez discuté avec
lui.
Non,
mais au départ, il m'a dit, voilà, j'aimerais adapter Fedo. Et puis, je dis, tiens, quelle drôle d'idée, c'est cool ça, c'est bien.
Mais n'importe quel Fedo, il savait pas lequel.
Il hésitait entre le fil à la pâte, un fil à la pâte et le dindon.
Mais le fil à la pâte a déjà été fait en 2005.
Alors, je crois que c'est pas la raison pour laquelle on a vraiment choisi le dindon. C'était pas contre, voilà.
Et pourquoi le dindon? Qu'est-ce qu'il représentait de plus ou de plus moderne, peut-être?
Il est moins choral, moins dispersé, plus sur une intrigue. Il part moins en délire, mais même physique. Bouzin est un personnage très très drôle au théâtre. Je sais pas ce qu'il peut donner au cinéma. Je me rends pas compte.
Bouzin étant le personnage joué par Danny Boone.
Non, dans Un fil à la pâte, étant l'autre figure importante du fil à la pâte.
D'accord.
Et voilà, je me suis dit, je pense que le dindon est plus fonctionnera mieux au cinéma.
Vous êtes un coureur de jupons dans le film, je parle. Vous avez, il m'a regardé, je dis, ouf, un coureur de jupons, le jupon en l'occurrence porté, le tailleur même porté par Alice Paul. Très très strict, hein, très baisse-belge au début, hein, comme
ah
on
oui,
dit. Hein.
Oui, oui. Et puis vraiment fait sur mesure. Donc j'étais.
C'est pas bougé.
Mais ça m'aide énormément.
Entre baisse-belge et maîtresse. Un petit peu sévère.
Oui, c'est enfin, entre bon. Les deux. Mais non, c'était ça m'a beaucoup aidé ces costumes. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait effectivement dire qu'après
une
la préparation,
c'est quoi?
Oui, une rigidité, une extrême féminité, et puis les chaussures aussi. Madeleine m'avait choisi des chaussures comme ça, un petit peu pointues, avec un petit talon qui fait clap. Quelque chose, c'est un personnage qui
force le déhanchement.
Oui, et qui serpente comme ça dans les pièces, dans l'appartement. Il voulait, c'est toujours une espèce de danse avec ces hommes, c'est-à-dire que elle s'en rapproche, elle s'en détache. Il y avait tout ce jeu là qui est comme une danse, et donc c'était bien que le personnage soit très structuré dans son costume, quoi. Les cheveux aussi, ça, et ça m'a aidé aussi parce que ça me ressemble pas tellement dans la vie.
Le personnage était très structuré, le reste ne l'est plus du tout, parce que ce coureur de jupons donc veut séduire absolument cette femme mariée. Il découvre que cette femme mariée elle est mariée à un ami, et cet ami se rend compte quand même un tout petit peu de ce jeu de séducteur, et elle peut craquer, elle laisse même une espèce de porte entrouverte en disant « mais le jour où mon mari me trompe, à ce moment-là, ok, je me rangerai.
Voilà, la loi du talion,
elle pour œil d'empendant.
Voilà. Ouais, mais elle l'évoque juste en se disant c'est impossible, c'est complètement improbable, donc ça me coûte rien de lui promettre éventuellement une liaison, puisque mon mari est d'une fidélité exemplaire et jamais il pourrait avoir l'idée de me mentir pour rejoindre une autre femme.
Oui, elle est persuadée.
Mais là, c'est une porte ouverte.
Et puis, c'est, il a un truc très naïf aussi. Enfin, il a l'air. Et c'est pour ça aussi qu'il est très mauvais dans le fait de cacher.
Elle est courtisée également par le personnage joué par Ahmed Silla. Et puis débarque surtout Laure Calamy, c'est-à-dire l'épouse du personnage joué par Guillaume Gallienne, qui vient aussi ruer dans ses brancards. Et puis, on va citer Camille Lelouch.
Et Holt McCallany, qui joue dans Mindhunter, qui est un acteur américain. Incroyable. Quand je l'ai vu arriver dans le film, je me suis dit, mais c'est dingue.
Il y a un mort quelque part.
Il y a un psychopathe.
Il y a un mort.
Donc Jessica Sherman aussi, allons-y, il faut c'est dans tout le monde. Henri Guibet aussi, qui est. Ça fait plaisir de le ça fait plaisir de le voir avec l'œil pétillant comme ça. Éric de Sterck, Catherine Kleins, Esteban, alors pour ceux qui aiment la musique. Et il fait partie
Naïve
New Beaters, merci. Et surtout, il a cette voix d'Homer Simpson, un truc de dingue.
Il a son propre rythme qui est incroyable.
C'est ça. Et ça s'appelle donc Le Dindon, et ça sort demain, et c'est au cinéma. Voici Tanguy Passion. Tanguy, vous allez encore me parler d'environnement.
Oui, je sais, c'est mon obsession. Mais tant qu'on ne vivra pas tous dans la nature tout nu à fabriquer des colliers avec des noisettes, en disant à Greta Thunberg qui toque contre le tipi en cuir de fougère, bébé, t'es gentil, t'as 16 piges, je reviens dans 2 ans et tu pourras en toute légalité arracher mon étui pénien. Eh bien, je continuerai. Parce que personne ne réalise l'ampleur de la catastrophe. Nos gosses font grève pour le climat. Certains ne vont pas à l'école le vendredi. Les familles ont 3 jours de week-end. Ça veut dire que dès le jeudi soir, il y a embouteillage sur la 13. Et comment on fait pour aller à Deauville? Vous croyez que la langouste au resto, elle attend dans l'assiette? Non. Au bout d'un moment, elle se dit, ils viendront pas, je me casse. Parce qu'en plus, à cause de ses pinces, elle ne peut pas lire le SMS où vous lui dites, on arrive, on va te bouffer. Hein, oui, à Deauville, même les langoustes ont des iPhone 11. Et Jean Sylvestre, le seul SDF de la station, qui a perdu les clés de son manoir en 2002, prend les paiements par carte. Résultat, on se retrouve à essayer de bouffer la mouette qui s'est posée sur la tête de Nelson Montfort présent pour le week-end, pensant que c'était son nid. Il faut donc se battre pour le climat. Et à New York, les grandes se mondent. Traduction, les enfoirés qui mettent nos vies en jeu et celles de nos enfants en n'en branlant pas une. Sont là à dire c'est toi qui pollue, non c'est toi, non c'est Merkel. Et là les gens croisent le regard de Merkel et disent non en fait c'est quelqu'un d'autre. Ils se rejettent la faute. Hein, comme dans l'ascenseur de la tour Montparnasse quand quelqu'un a des gaz et qu'il reste 57 étages à monter. Exemple hier, Emmanuel Macron s'est confié aux Parisiens. Macron il est dynamique, sportif, ce corps grrr. Donc le journal lui dit alors le problème du climat, ça y est t'as géré le truc mon amour. Enfin le journal lui dit non, le journaliste, hein, puisqu'un journal ça ne parle pas. Hein, une fois en 95, en fin de soirée à Brest, j'ai entendu le Ouest France me parler, mais j'avais vraiment bu. Hein, ça, je l'ai compris quand le Télé Z s'est mis à me crier « N'écoute pas le Ouest France !» Et là, Macron, qui est un latin, hein, il est chaud comme une calzone, si tu appuies dessus, il y a du jaune d'œuf qui sort, dit « Oui, les jeunes qui manifestent, c'est mignon, mais ça n'aboutit à rien qu'ils aillent défiler en Pologne. » Certes, les Allemands ont fait ça en 39, ils ont eu gain de cause. La Pologne, c'est ce pays qu'on pense déprimant, puis on y va. Et là, on réalise qu'on avait raison. Alors Macron dit que la Pologne bloque un accord de l'Europe visant à ce que les pays soient neutres en carbone en 2050. Les autres en gros disent allez on y va, la Pologne répond non. Tel Jean-François Piège si des amis lui avaient donné rendez-vous devant le Quick. Mais Macron son rôle c'est de nous rassurer à de jeunes Français déjà exposés aux perturbateurs endocriniens, au glyphosate et à Nakamura. Il devrait dire je vous comprends les kids, on va bouger et pas les inciter à se rendre en Pologne. Les mômes habitent Saint-Ouen. Bonjour le bilan carbone et après on va faire quoi? On va envoyer les élèves de CP de Cambrai ramasser les capotes usagées des Néerlandais à Pattaya? Non mais soyons sérieux, Nagui.
Et la Norvège, elle agit.
Oui, parce que les Norvégiens, ils sont pas comme nous à dire ouin ouin, ce sont les autres les méchants. Un Norvégien, ça agit, ça ne parle pas. Vous lui dites bonjour, il répond ya. Vous lui dites il fait beau ce matin, c'est cool, il répond ya. C'est très pratique parce que si vous êtes chaud, vous lui dites mon loup, j'ai la calotte glaciaire qui fond. Veux-tu pas récupérer l'eau si pure, ainsi générée? Il répond ya. Un Norvégien, c'est pragmatique. Un problème égale une solution. Vous présentez Loana à un Norvégien, il lui dit arrête le Xanax et la bière. 7 semaines plus tard, la petite fait du lancer de disque aux Jeux Olympiques. Donc, les Norvégiens ont étudié le cas du Gabon. Le Gabon a plein de forêts, il pourrait ouvrir 2000 center parks. Et ils se sont dit, si le Gabon déforeste, ça ne nuit pas juste au Gabon, mais à la planète entière.
parce qu'un végétal en moins, c'est autant de CO2 qui part dans l'air. Je salue d'ailleurs Jean-Sylvain, mon oncle, qui hier a pris un ficus chez Jardiland, et grâce à qui vous respirez, Nagui. Hein, on est liés les uns aux autres. Vous, moi, Marine Le Pen, Alexandre Benalla, Francis Olmetex. Nous sommes une grande famille. Par conséquent, je dis ça parce que ça donne du cachet à une chronique. La Norvège, à New York, pendant que les grandes puissances ne faisaient rien, a conclu un deal avec le Gabon. Ils vont les payer pour ne pas qu'ils déforestent. Parce que ces pays le font pas par plaisir. Hein, ce sont pas des gens qui, enfants, sont pris un chêne en VTT et ont juré une fois adulte de tout raser en hurlant dans ta face la nature. Ah non, ce sont des paysans pauvres qui étendent leur culture pour gagner du brosouf. Donc si nous, les riches, on leur dit oui, quid de la biodiversité, ça va moins les toucher que des menottes avec fourrure offertes au pape François par une sœur un peu barrée. Que les pays riches aident les pays pauvres à protéger leur nature, c'est normal. Et ensuite, les gens feront ça entre eux. Nagui, vous qui avez un peu plus que moi, vous me paierez pour que je jette ma chronique dans la poubelle des papiers. Avant lecture à l'antenne, me préciserez-vous pour me briser. Moi, je paierai Frédéric Sigrist pour qu'il boive dans un gobelet carton. Sigrist paiera Amadou, le migrant sans papier qui fait des messages à Nicolas Demorand entre 7 et 9 heures, et ainsi de suite. Vous voyez, les Norvégiens sur le papier, c'est pas très fun. Hein, ils sont pâles, ils sont rigides. Quand quelqu'un dépasse les autres dans la queue chez Auchan, il est condamné à 7 ans de prison. 19 s'il a volé des bonbons pèse. Mais eux sont pas là à regarder les mouches voler en rejetant tout sur les autres. Les Nordiques sont l'unique espoir de l'humanité.
Merci, Tanguy Bassereau. Allez, l'interview sur la culture, sur ce qui se passe en ce moment dans le monde culturel, et vous allez peut-être pouvoir trouver les réponses, Alice, Paul et Guillaume Gallienne. Quel est le point commun artistique entre Rachita, que vous aimiez et qu'on a entendu tout à l'heure, Leonard Cohen et Johnny Hallyday?
Il y a un album posthume qui est sorti.
Il y a un album posthume, voilà.
Exactement. Album posthume, vous qui êtes des artistes, vous trouvez ça normal, répréhensible, si les albums, entre guillemets, si les œuvres ont été enregistrées et pas publiées de leur vivant, c'est peut-être que les artistes ne voulaient pas que ce soit publié.
Ah, oui.
Vous n'avez pas posé la question? Je pense à François Sagan, par exemple, aussi, avec...
Oui, et en même temps, ça donne un nouvel éclairage aussi, ça rajoute... Moi, ça ne me dérange pas du tout.
Non, moi, je ne crois pas que ça me dérange non plus, dans le sens où j'ai l'impression que les artistes, et en tout cas ceux qu'on a cités, ont tellement vécu pour leur art, pour leur public, pour leur musique, j'ai du mal à penser qu'ils seraient pas un peu fiers que ça, si que ce soit entendu.
Moi, je suis inquiet parce que ça fait 6 mois.
Si on sortait un film de vous inachevé, par exemple, si on sortait un film de vous inachevé après votre disparition. Bah là, je fais une petite crise d'angoisse parce que j'ai très peur de la mort, mais en dehors de ça.
On m'a pas dit qu'il sortait la semaine prochaine.
Non, ça aurait été ma vie, donc non.
Et je disais, donc ça fait 6 mois qu'on n'a pas un nouvel album de Bob Marley, parce que normalement tous les 6 mois il y a un nouveau Bob Marley qui sort avec on trouve dans un tiroir.
Oui, là par contre,
de nouveaux enregistrements. Il y a tout un truc.
Il y a désormais des acteurs qui continuent de jouer après leur mort. C'est-à-dire que Peter Cushing, par exemple, ils ont utilisé son image pour le faire jouer dans un Star Wars, c'était Rogue One. Et ça pose une question déontologique.
Et Tupac en concert aussi.
Oui.
Il est là, le Rachita.
Et je suis africain du nord au sud. Et je suis africain.
Je comprends pourquoi il l'a pas sorti, même.
C'est une bonne vague, quand même. Et le Leonard Cohen, le voici.
Settling at last, the counts of the soul.
Votre dingue.
Is for the trash.
C'est pas Gérard Darmon.
That made in full. As for the fall that began long ago. Oh,
Et il y a le Johnny Hallyday qui arrivera le 25 octobre avec 12 titres et avec de nouveaux arrangements, cette fois-ci symphoniques et acoustiques, mais des chansons visiblement déjà connues. À quoi correspond le hashtag Not Worthless?
La défense des femmes? Battu?
Ouais, non, pas loin.
Humilié? Trompé?
Non.
Bousillé?
Non.
Tambouriné?
Non.
Celle de par rapport à l'affaire Epstein?
Ah, qui sont moins payés, moins bien payés.
Inégalité salariale, hashtag utilisé par les scénaristes, par les productrices et les assistants pour mettre en lumière les problèmes d'inégalité dans l'industrie du divertissement américain. Alice Paul, avez-vous été aussi bien payé que Guillaume Gallienne?
Non.
Je ne crois pas.
J'aime bien le nom immédiat.
Non, je le sais parce que ça a été une question. Non, ça a été une question, vraiment.
À la base, c'était une vanne. Mais
en fait, c'était pas une vanne. Nous, ça a été assez sérieux parce qu'il y a une actrice pour un autre rôle qui a refusé justement à cause de ça. Et on a été obligé d'argumenter le pourquoi. Et le pourquoi n'était pas parce que je suis un homme et qu'elle est une femme. Mais il a fallu qu'on lui explique, parce que ça me tenait à cœur aussi. Parce que je trouve ça dingue qu'en 2019, on n'arrive pas à régler ce problème d'inégalité financière, parce que je suis sûr que c'est là où ça
alors le problème
beaucoup d'inégalités
on réglera beaucoup de problèmes
quand ça sera avec le pognon d'habitude
le problème est de juger en effet pas le côté homme-femme mais soit la réputation soit le temps de présence soit le temps de travail
et donc on a dû argumenter d'une manière la plus objective possible et on avait les arguments mais
est-ce que maintenant Alice Paul c'est un problème peut-être pas que vous soulevez mais que votre agent soulève quand on discute, quand des négociations, c'est-à-dire, et bien en plus, on sait bien que on tait toujours les sommes obtenues par les autres, même si tout bien finit sûr. Par se savoir. Oui. Mais en tout cas, ce souci de supprimer les inégalités est présent.
Moi, en fait, avec mon agent Laurent Grégoire, on a décidé. Je lui dis en fait, qu'est-ce qui est juste ? C'est la même chose pour l'ordre du générique, etc. J'ai horreur maintenant de ne pas être respecté. À ma juste valeur, ou en tout cas de travail que je fournis. Et j'ai horreur aussi dans l'autre sens, moi, de pouvoir abuser d'une situation, parce que quand on a plus de succès, ça peut arriver aussi. Donc en fait, voilà, je demande ce qui est juste. Et si par contre je sais que c'est pas juste que ce soit lié à un homme, une femme, etc. Là par contre j'ai aucun remords à dire bon non je le ferai pas.
La question c'est la juste valeur, ouais, c'est ça.
La juste valeur.
Ouais,
voilà.
Le respect,
voilà,
ce qui le est respect mérité, du travail.
Le exactement. Respect parce que l'argent c'est le respect.
C'est compliqué à évaluer, C'est compliqué à évaluer.
Oui, mais enfin il y a quand même des règles, quand même des choses avec lesquelles on peut voilà. Ouais. Si c'est de l'ordre de la mauvaise foi, là moi je pars.
Mais ce qui est clair c'est que pour un même travail prenons des figurants justement qui n'ont pas un rôle à jouer, homme ou femme, c'est exactement au même niveau, même salaire. Pour un réalisateur, travailler avec Netflix signifie plusieurs choses. Un gros chèque. 2, une visibilité partout dans le monde. 3, bientôt une prime. Mais une prime pour quoi ?
Pour les droits qui sont bloqués, c'est très
chaque
compliqué.
Chaque rediff ?
Non.
Non, je crois qu'ils ont un pourcentage sur le nombre d'entrées au cinéma désormais. Non. Si jamais le film marche bien,
non.
Ils auront une plus-value, non ?
S'il y a un prix,
ça aura exactement. S'il y a une récompense lors d'une cérémonie dédiée au cinéma, à ce moment-là, c'est la plateforme a décidé de rajouter une prime. Ces plateformes, que ce soit Netflix, Disney, Apple, Amazon ou autres, ça vous attire ? Ça, vous avez déjà travaillé avec eux ? C'est une autre manière de travailler dans vos métiers ?
Bah, c'est important. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un pourvoyeur de contenu énorme. C'est comme si, je ne sais plus quelle actrice avait dit au début d'Internet, moi je suis contre Internet, moi je suis contre la Poste. Enfin, non mais voilà, c'est aujourd'hui, on est obligé de travailler avec eux. Après, la question qui se pose, c'est la sortie en salle. C'est ça la vraie question.
Ce que fait Amazon.
Ils sont en train de le faire aussi.
Ils sont en train de le faire aussi. Très bien. Lui, il sera peut-être bientôt en salle, mais de rééducation. Vas-y, Daniel.
Vous n'aurez pas ma mauvaise humeur, Nagui. Oh là là, mes amis, si vous saviez comme votre film, le Dindon m'a mis en joie.
Dindon ?
Oui, le Dindon. Vous, Guillaume, en monstre de séduction, collectionneur de féminins trophées. Quel animal sexuellement radioactif vous êtes. Quant à vous, Alice, quelle délice. À la fois mutine et piquante, vous m'avez fait cligner de l'œil à maintes reprises dans le Dindon. J'ai adoré votre personnage. Oh là là, quand vous dites à vos prétendants que vous accepteriez de coucher avec eux si votre mari vous trompait en premier, quel stratège. Une Alice qui ne laisserait pas passer la trahison conjugale et n'hésiterait pas à commettre à son tour l'adultère si ça se produisait. Du coup, je me suis mis à espérer, à rêver que l'objet de tous mes tourments érotiques, à savoir Madame Guy, la femme de Nagui, en veuille tellement à son mari qu'elle n'ait plus qu'une seule idée en tête, se venger. Là, j'interviendrai dans le rôle du consolateur outré par le comportement de son tyran de mari. Je m'y vois déjà. Oh, je comprends. Je comprends tellement votre douleur, Madame Guy. Ah, ça, on tombe de haut quand ça arrive. Quel salaud. En même temps, ça ne me surprend pas de sa part, vous savez. Ça fait plus de 5 ans que je le côtoie. Maintenant, je peux dire que j'ai découvert le monstre qui se cache sous la carapace du fantaisiste. Mais vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Un tel comportement, hein, sans réaction, sans riposte. Du coup, si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai bien dit de quoi que ce soit, je suis là Ich bin dans la place.
Le din-don.
Alors, cette trahison, ce coup de canif dans le contrat amoureux, je l'ai attendu, attendu. Et puis hier, je passe devant un kiosque, et là... À la une d'ici Paris, les amis, à la une d'ici Paris, une photo énorme, mais énorme de Nagui avec sa femme. Et la légende qui dit, Nagui, une sombre affaire de violence conjugale, c'est encore mieux que l'adultère. Bingo! Oui, c'est bon, c'est parti. Qui ne saute pas n'est pas guiré. Ouais, qui ne saute pas n'est pas guiré. Nagui, on t'en... etc.
On t'en prie.
J'achète le journal que je tiens fébrilement, tant il est porteur et prometteur en son sein éditorial d'une félicité sans borne. J'ouvre le journal pour y lire en détail le récit des horreurs naguiesques. Et qu'est-ce que j'y trouve ? Une histoire à la mort moelle-neuve. Les petites violences ne concernent pas Nagui. L'histoire est la suivante. Il y a quelques années, Nagui avait reçu dans un de ses jeux, sans savoir à qui il avait affaire, un candidat qui avait été condamné pour violence conjugale. Rien à voir avec Nagui, ces violences. Mon rêve se brise. Mais qu'est-ce que c'est que ce journal de merde qui me donne de faux espoirs, de fausses joies, quand je pense que j'étais à ça, mais à ça, de pouvoir vivre un moment extatique, pur mélange de bonheur et de trahison, ce qui entre nous est un cocktail de délicieuses émotions. Tout ça à cause d'un torchon qui a hypnotisé mes espoirs avec une fausse information. Journal de chiottes, ici Paris, ici pourri, oui. Et quant au journaliste qui a signé cet article aussi mensonger que briseur de rêves, un certain Jean-Marc, je n'ai aujourd'hui qu'une envie, Jean-Marc, t'épouser, oui, t'épouser pour pouvoir, et sans mensonge cette fois, conjugalement, te violenter.
Oh non, ça va pas.
Oui, c'est bon, je m'énerve, mais crotte à la fin. C'est frustrant tout ça. À
merci demain. Daniel. Tu viendras directement au procès, tu seras bien meilleur que mes avocats. Merci mille fois Alice Paul, merci Guillaume Gallienne merci d'avoir trouvé le temps de venir nous parler du din-don, plus connu sous le nom de dindon, de Jalil Lespère, avec Danny Boone, Ahmed Silla, Laure Calamy et Camille Lelouch. Belle brochette d'excellents acteurs et comédiens avec la réalisation de Jalil Lespère. Et c'est demain au cinéma. Demain justement nous recevrons Olivier Gourmet sur cette même antenne.